engagement politique, participation citoyenne, journalisme social, liberté d'expression, décryptage d'articles, réflexion sur l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. C'est un enregistrement que vous apprêtez à écouter sur l'événement Rentrée en Fête, événement annuel, sorte d'énorme forum des associations qui se déroule à Orléans tous les ans pour préparer et surtout présenter tout le tissu associatif de cette ville. Et dans le cadre de cet événement de 2024, on a décidé de faire un petit dispositif assez particulier puisque nous sommes en présence de jeunes qui sont accompagnés par la mission locale de l'Orléanais. Pourquoi ils sont avec nous sur ce plateau? Et bien tout simplement parce que nous préparons avec eux le direct qui se déroulera sur le samedi 14 septembre pour l'événement Hop Hop Hop, une émission en direct qui aura lieu donc ce samedi de 15h à 19h et sur laquelle on retrouvera de très nombreux artistes et groupes qui se succéderont au cours de cet événement. Il y aura également des showcases que vous pourrez écouter, émission de 4 heures donc qui sera tenue par ces jeunes, et donc nous les formons à l'interview et comme petit exercice de départ, nous les amenons à préparer donc des interviews avec des responsables associatifs. C'est l'occasion aussi pour nous en même temps de faire le tour un petit peu de différentes associations que nous pouvons retrouver donc à Orléans, et nous commençons par de la danse. Alors ça c'est Cléa pour le coup, notre bénévole donc accompagné par la mission locale de l'Orléanais qui souhaitait avoir une association de danse sur ce plateau. Et donc nous accueillons OP45. Alors avant de présenter OP45, tout d'abord, les deux jeunes qui sont avec nous, donc Cléa et Alpha. Bonjour à vous deux, comment est-ce que bonjour. Vous allez?
Bonjour, moi je vais bien personnellement.
Ouais, ça va bien, tout va bien, pas stressé?
Moi aussi, ça va bien.
Ouais, bon bah parfait. C'est la première fois pour vous, exercice de radio. Ça va bien se passer. Voilà, on est avec des interlocuteurs très bienveillants et donc nous sommes notamment avec Jesse, c'est bonjour. Ça. Bonjour Jesse, comment vas-tu?
Eh ben super.
Alors toi, tu es danseur, chorégraphe, professeur de danse et co-directeur de l'association OP45.
C'est ça, tout à fait.
Je vais laisser la main à Alpha et à Cléa qui vont donc te cuisiner pendant une dizaine
avec
de
plaisir.
Minutes à propos donc des activités de ton association. Alpha, tu voulais commencer, il me semble.
Oui, exactement. Bonjour, moi c'est Alpha.
Bonjour.
J'ai quelques questions à vous poser par rapport à votre OP45, c'est le nom de l'association?
Oui, c'est ça, c'est le diminutif de Original Passion.
Donc vous êtes danseur aussi et
exact.
Directeur de l'association?
Co-directeur, oui.
Co-directeur.
On va prendre la casquette de ma sœur, c'est la directrice, moi je suis co-directeur.
Ah, ok, merci. En fait, j'ai une question, en fait, c'est quoi qui vous a donné envie de se mettre à la danse et...
Alors moi, pour le coup, je n'ai pas eu le choix.
Mm-hmm.
C'est ma sœur qui est danseuse. À la base, elle faisait du guoka, qui est une danse originaire des Antilles. On est d'origine martiniquaise. Et donc, elle m'a emmené à ses représentations. Elle était danseuse, professionnelle dans un groupe qui s'appelait... Non, je ne me rappellerai pas du groupe, désolé. Une association antillaise de la ville d'Orléans. Et donc, elle m'a un peu forcé la main pour que je danse. Et en fait, j'ai appris à aimer ça au fur et à mesure des années. Donc j'ai commencé par de la danse antillaise et après j'ai fait de la danse hip-hop en rencontrant différents danseurs professionnels qui m'ont fait aimer la danse, dont ma sœur bien sûr.
Ok, c'est bien, merci. Et aussi, c'est votre sœur qui vous a donné envie de danser. Vous
exact.
Dites que vous n'avez pas le choix. Et aujourd'hui, votre vie c'est un peu la danse.
Ouais.
Est-ce que vous êtes trop fier avec la danse, la réussite? Vous êtes co-directeur d'une association?
Ouais, bah du coup, je suis assez fier de ma grande sœur qui a tout fait d'elle-même. En fait, sur la ville d'Orléans, il n'y avait pas forcément de grosses associations de danse. La plupart des structures qui s'appellent aujourd'hui ACELO, je crois maintenant de tête, qui est en gros des structures qui s'occupent des jeunes sur la ville d'Orléans, ils cherchaient des professeurs de danse. Et donc ma sœur s'est dit, bah c'est vrai qu'on manque de professeurs de danse sur la ville d'Orléans. Et donc en 2007, elle a monté son association qui est donc OP45. Et je fais partie des premiers profs, dont elle qui donnait des cours de danse à l'époque. Et donc on était les premiers profs, on va dire, qui étaient sous l'égide d'une association à ce moment-là. Et ensuite elle a développé cette association pour qu'aujourd'hui elle ait plusieurs événements, dont des concours nationaux comme The Code, qui est un championnat de France qui a lieu le 17 mai. Je crois que ça va être au Palais des Sports.
À Orléans ?
Ouais, à Orléans. Ah, okay. Championnat de France de danse hip-hop, de battle aussi, freestyle. Donc voilà, elle a des gros événements comme ça qui réunit plusieurs milliers de personnes. Et son association, maintenant, alors qu'elle a commencé dans les petites structures, maintenant on a plus de 1600 adhérents sur toute la région centre.
Et aussi, étant co-directeur du OP45, mm-hmm. ça vous arrive d'être en scène aussi
Oui, donc moi je donne aussi des cours. Mm-hmm. Je donne 3 heures de cours par semaine et je suis aussi chorégraphe d'un groupe professionnel. Donc on a fait pas mal de compétitions. On a un titre de champion de France, un titre de champion d'Europe aussi, dans une catégorie qui s'appelle Mega Crew. Voilà, on danse à plus d'une dizaine, une quinzaine de danseurs, entre 15 et 30 danseurs. Et là, cette année, en 2024, c'est une de nos professeurs et une de mes danseuses qui maintenant a son propre groupe de danse qui s'appelle Illegally, qui a donc décroché le titre de championne de France en 2024 avec son groupe exclusivement féminin. Donc voilà, on est très fiers d'elle. Et donc, oui, je donne des cours de danse et je danse quand même toujours pour l'association. Oui.
Et aussi une dernière question.
Mm-hmm. Attends, attends, peut-être on va laisser Cléa aussi, parce que Cléa avait peut-être une question aussi à lui poser. Prends ton temps.
vous faites quel type de danse, vous ?
Alors moi, je suis danseur hip-hop.
Ok.
Et après, en fait, dans le hip-hop, c'est quand même assez large. On est assez libre. Donc moi je fais un style qui vient de Los Angeles, donc on a résumé en hip-hop LA. Okay. En gros c'est un style de danse qui va porter essentiellement sur des musiques avec des paroles et je vais interpréter les paroles à travers ma gestuelle dans la danse.
D'accord.
Et c'est un style de danse qui est assez libre, donc au final ce que je fais c'est du hip-hop et après je fais vraiment mon hip-hop à moi quoi, en chorégraphie, donc je fais essentiellement de la chorégraphie. À l'opposé, mais ils vont pas aimer ce terme-là. Contrairement, ça marche pas non plus. Bon, en tout cas, il y a les danseurs freestyle, ils dansent sur le moment, on met une musique et ils dansent.
Okay.
Moi, je prépare ce que je fais à l'avance, c'est-à-dire je fais des chorégraphies environ d'une minute.
Okay.
Et donc, c'est une succession de pas qui sont déjà prédéfinis par moi-même. Quoi.
Ok.
Vas-y, Alpha, si tu avais une autre question.
Oui, j'ai une autre question. Avec votre OP45, est-ce que vous faites des tournées internationales ou qui est des tournées
Alors, on ne fait pas de tournée à proprement parler, parce que tournée, ça voudrait dire qu'on est notre show, mm-hmm. et qu'on le vendrait à d'autres
Exactement.
Personnes.
Mm-hmm.
Par contre, on fait des représentations, par exemple, lorsqu'on nous demande pour... Notamment, on a fait le All-Star Game de Bercy.
Okay.
Donc,
oui, quand même, oui.
Ouais, c'était bien. Hein. C'était trop bien. Ouais.
C'est énorme.
Ouais, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour le basket, hein, c'est l'événement annuel qui a lieu à Bercy pour le basket français avec les meilleurs joueurs de basket du championnat de France qui s'affrontent. Donc
voilà.
Ouais, c'est quand même un sacré gros événement.
Ouais, c'est
énorme.
C'est pour ça que c'est le premier que j'ai cité. Mais ouais. Donc ouais, c'était super cool. Donc voilà, pour ce genre d'événement, on nous a sollicité par exemple pour venir faire tout ce qui est mi-temps ou alors comme c'est pas vraiment des matchs avec les règles établies habituelles, donc il y a plus de pauses et il y a beaucoup plus de choses pour l'entertainment. Et donc ils nous ont demandé, on a participé pour ce genre de choses. Après à l'international, c'est plus des compétitions qu'on fait. On a fait par exemple le championnat du monde aux États-Unis à Phoenix. On a été en Allemagne aussi, là où on a eu notre titre de champion d'Europe. On a fait aussi Eindhoven. Espagne, mais je crois qu'on n'a pas fait Espagne.
Ouais.
Mais voilà, du coup, on a voyagé pas mal pour la danse. Ouais.
Et pour les compétitions, pour participer, il faut quoi et...
Alors, comme on n'a pas de fédération de danse, mm-hmm. En gros, on doit tout défrayer par nous-mêmes, mm-hmm. déjà. Donc ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et ce qu'il faut, en fait, il n'y a même pas besoin d'avoir de palmarès pour participer. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en gros, on envoie simplement un visuel de ce qu'on sait faire. Mm-hmm. Et c'est les concours qui décident de valider notre casting ou pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir gagné des titres pour participer à des concours. On peut très bien avoir juste créé notre groupe dans l'année ou même dans le mois. Mm-hmm. Et à partir du moment où ce qu'on présente est de qualité, ils nous font participer au concours. Dans la plupart des concours, c'est comme ça.
D'accord. Et aussi le fait que vous faites du danse hip-hop, ça vous arrive qu'il y ait les rappeurs qui font du hip-hop qui vous proposent de danser dans leurs clips, tout ça ?
Alors, nous, on a dansé pour Sizzlack, un rappeur orléanais. Mm-hmm. Après, On a aussi la chance d'être... en gros, on a dans nos professeurs, on a les petites sœurs. Enfin, on a une grande sœur qui maintenant n'est plus professeure, mais on a la petite sœur de VG Dream. Donc, on a eu l'occasion de faire des chorégraphies sur ses musiques qu'il a pu partager du coup sur ses réseaux. Voilà, c'est ça. Donc, on a quand même effectivement des liens par rapport à des chanteurs. Et on a aussi récemment, je ne sais pas si vous avez vu La Nouvelle École.
Ouais, j'ai vu, comment ça s'appelle, Yorsi.
Il y a Yorsi, mais c'est Carla.
Clara, ouais. Il y a Yorsi et Clara qui vient d'Orléans.
Et ben du coup, la chorégraphe de Illegally, elle a avec la sœur de VG Dream, donc Sydney, ils ont dansé pour son premier clip, du coup, qu'elle a fait.
Cléa, tu avais aussi une autre question.
Oui, notamment dans l'intense, est-ce que, enfin, au Pékin, y a-t-il des garçons qui dansent aussi?
Alors moi je suis un garçon, donc oui, il y a des garçons, je plaisante bien sûr, mais oui, il y a... Alors,
oui, ou plutôt en proportion peut-être,
c'est ce que j'allais dire, c'est ça. Complètement, t'as raison, 90% de nos membres, ce sont des filles, donc effectivement c'est quand même une discipline qui est quand même bien représentée par les femmes. Par contre, effectivement, on a aussi des garçons qui... plusieurs profs, dont moi. Okay. On a aussi Arthur, on a aussi Axel, on a aussi Bailly. Je pense que je n'en oublie pas de cette année, mais on en avait encore. On a Yacine aussi, pardon. Donc voilà, on a plusieurs professeurs et effectivement, ça dépend des cours. Moi, par exemple, je donne des cours de hip-hop, donc je vais avoir quelques garçons. Mais c'est vrai que même dans mes cours, c'est majoritairement des filles qui viennent dans mes cours.
Ok.
Je me permets peut-être une petite question avant qu'on conclue ensuite avec les informations pratiques, très important. Les Jeux Olympiques de Paris, il y a eu le breakdance qui a eu lieu. Après plusieurs semaines de recul, toi qui es justement dans la danse, et tu disais notamment que tu es dans la danse hip-hop, même si c'est, le breakdance c'est encore une pratique très différente, mais quel est ton regard, toi, de danseur, de chorégraphe, par rapport à la manière dont ça s'est passé, dans la manière dont, dont cette pratique s'est testée? Parce qu'il y en a eu beaucoup, ça a été très scindé en fin de compte, 50% des personnes disaient que ça n'avait pas sa place dans les Jeux Olympiques. Je te sors un chiffre comme ça venant de ma tête, mais en gros c'est ça, et 50% qui disaient que c'était super et que ça apportait aussi un coup de neuf aux Jeux Olympiques. Toi, quel est ton regard?
Bah, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que les prochains JO, ils sont à LA, et LA, ils n'ont pas repris le break, alors que c'est un peu, ça vient un peu de chez eux quand même.
Ouais. Ça a divisé parmi les danseurs.
Au final, ça n'a pas vraiment eu la retombée, je pense, que certains s'imaginaient. Parce qu'au final, ça ressemblait pas vraiment, en tout cas de mon point de vue, ça ressemblait pas vraiment à ce qu'on fait d'habitude en termes de comment c'est mis en scène, comment c'est mis en place. C'était assez austère par rapport à ce que c'est d'habitude. D'habitude, c'est dans un endroit très fermé, les gens sont assis à 3-4 mètres des danseurs, on est tous dans le feu, quoi. Et là, c'est vrai qu'on s'est retrouvé sur quelque chose avec des gradins. Enfin, ça ressemblait presque à un match de tennis, quoi. Donc, c'était pas vraiment le ressenti break. Après, on a eu des prestations de... Alors, moi, j'ai pas eu l'occasion d'aller sur place. Certaines personnes de l'association y sont allées. On a quand même eu des choses exceptionnelles comme Snoop Dogg. On a eu aussi des prestations de certains danseurs que je connais. Mais
grave, on est dimanche.
Ouais, non, il faudra enlever. On bipera. Mais en tout cas, ouais, ce qui est d'un point de vue technique et danse, c'était fou. Il y a vraiment des choses incroyables. Je pense que les gens, ils ont vu à quel point c'était mérité en termes de discipline physique, je veux dire, de figurer au JO. Par contre, nous en tant que, enfin moi en tant que danseur, après je suis pas breaker, mais j'ai pas eu ce feeling-là d'avoir vraiment montré la culture hip-hop, mais plus d'avoir montré le visuel, quoi, et d'avoir montré le niveau de ce qu'on avait physiquement, mais pas l'ambiance finalement. Ouais. Voilà.
Bon, pour toi, c'est quand même plutôt positif malgré tout, ou tu restes quand même extrêmement mitigé?
Non, moi je suis content qu'on ait pu voir ça en fait. Ouais. Je suis content, mais après je pense pas que ça ait des conséquences sur l'avenir. Mmh. Voilà, c'est plus ça.
D'accord. Alpha, on va peut-être conclure.
Oui, moi j'ai une dernière question sur votre association 45, OP45, pardon. En fait, il faut combien d'années pour obtenir un diplôme de danse chez vous?
Ah, la fameuse question du diplôme de danse. Eh bien, du coup, on se bat depuis plusieurs mois justement contre le diplôme d'État de danse hip-hop, parce qu'il n'y a pas de diplôme aujourd'hui pour enseigner la danse hip-hop. En gros, on est une culture qui se transmet de génération en génération. Ça se transmet, on va dire, des, ce que nous on appelle les OG, donc c'est-à-dire vraiment les anciens qui nous donnent leur passion, et ensuite on la retransmet au fur et à mesure. Et donc, on ne se voit pas catégorisé par un diplôme d'État qui commencerait à encadrer notre discipline, qui est, comme je vous l'ai dit, par exemple, moi je suis professeur de danse hip-hop, mais ce que je fais, d'autres danseurs ne le font pas. Donc, qui pourrait me dire que ce que je fais, c'est de la danse hip-hop ou pas? Voilà, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Et donc, on est plus par la validation par les anciens, en fait. C'est plus comme ça. C'est-à-dire que moi, on a considéré que j'étais un professeur de danse à partir du moment où les anciens, ils ont dit, ouais, si c'est bon, c'est bien ce qu'il fait. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi.
Eh bien, on va conclure avec les informations pratiques par rapport au P45. Où est-ce qu'on vous retrouve? Comment est-ce qu'on vous contacte? Comment est-ce qu'on devient adhérent au sein de votre association? Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être très rapidement?
Donc, on m'a dit que c'était retransmis, donc si je dis on est au Campo Santo là maintenant, ça ne servirait pas à grand-chose.
Non, mais c'est pas. On est enregistré, donc effectivement, ça ne sert pas à grand-chose.
Donc, on peut nous retrouver essentiellement sur la commune de Saint-Jean-de-Blanc. On donne beaucoup de cours sur Saint-Jean-de-Blanc à la mairie et à Rue Creuse. Sinon, il y a notre site internet, donc OP45, notre Instagram aussi ou notre TikTok. Et donc, il vous suffit de vous présenter à nos cours, notamment sur la semaine du 16 septembre, c'est porte ouverte. Donc, vous pouvez venir jusqu'à mi-octobre, vous pouvez venir essayer une seule fois un de nos cours. Et si ça vous a plu, on vous donne une fiche d'inscription, vous avez juste à vous inscrire après.
D'accord. Merci beaucoup, Jesse. Donc, je rappelle, co-directeur de l'association OP45, danseur, chorégraphe, professeur de danse. Merci à toi d'être intervenu et d'avoir parlé avec nos jeunes. Merci aussi, Cléa et Alpha. On continue avec vous pour les prochaines interviews. Ouais. Merci beaucoup.
La Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans.
De retour sur Radio Campus Orléans 88.3 FM, toujours sur Rentrée en Fête, le forum des associations de la ville d'Orléans. Nous continuons notre tour des interviews avec toujours Alpha et Cléa pour cuisiner nos invités. Nous avons désormais notre deuxième association avec le Zonta Club, anciennement présidé par Alain Pierre, qui est aujourd'hui trésorier de ce club service qui a plus de 100 ans, il me semble. Je vous laisse commencer les interviews. Alpha, est-ce que tu as ta première question à poser, s'il te plaît? J'ouvre vos micros.
Bonjour, moi je m'appelle Alpha, je suis issu de la mission locale. Et du coup, j'ai quelques questions à vous poser. C'est quoi le but de Zonta Club?
Alors, le but de Zonta Club, c'est d'abord d'aider les femmes. C'est l'éducation. C'est lutter aussi contre l'excision. C'est aussi lutter contre les mariages forcés. C'est l'ensemble de la défense des femmes dans le monde. Donc nous mettons en place, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national ou local, nous mettons à disposition des moyens pour que les associations aillent justement dans ces objectifs.
La Zonta Club a pour but d'aider les femmes pour les excisions.
Alors le Zonta Club n'intervient jamais en direct. Le Zonta Club, lui, est associé à des associations qui nous donnent leurs objectifs, leurs actions et nous demandent de pouvoir les aider financièrement pour mener leurs actions. Alors oui, bien sûr, par ces associations, on sait qu'il y a des femmes qui sont très contentes des associations, et si ces associations n'étaient pas venues en aide, ils seraient toujours dans la situation antérieure.
Si je comprends bien, en fait, vous êtes une association internationale, vous intervenez qu'au moment de financement.
On sert uniquement au niveau du financement
économique.
Et pour avoir ces financements, on n'a pas d'aide de l'État. On est une loi 1901. Donc, pour avoir des financements, nous sommes nous obligés de faire des manifestations pour gagner de l'argent qui n'est pas pour le Zonta, mais justement
pour aider les associations qui sont en contact avec des femmes qui sont en difficulté.
Un exemple, ça fait 37 ans que nous faisons une brocante sur les quais de Loire, le 6 octobre, 37 ans. Tout l'argent qui arrivera par le biais des exposants ira vers une association qui aide les femmes.
Et une dernière question, Zonta Club est une association internationale. Est-ce que vous êtes... Zonta Club est dans combien de pays il représente dans combien de...
63 pays au niveau mondial, avec 1100 clubs. 1100 clubs, et nous avons 35 clubs en France. Et dans les 35 clubs en France, nous sommes divisés en 3 zones. Et le Zonta d'Orléans dépend de la zone nord-ouest. Et la zone nord-ouest, ça va de l'Espagne, tout le sud-ouest, la région parisienne, la Guadeloupe, où il y a aussi un club. Voilà.
Et en Europe, vous êtes combien ?
Alors, en Europe, je ne sais pas. Mais au niveau mondial, nous sommes 28 000.
Cléa, tu avais une question à poser.
Oui. Pourquoi les femmes et non pas les hommes ?
Alors, c'est une question qu'on peut se poser. Mais quand le club a été créé, les hommes étaient à la guerre.
Ah, d'accord.
En la Première Guerre mondiale.
Okay.
Et il fallait bien que les femmes remplacent les hommes et retrouvent aussi une valeur dans la société. Donc, ça a commencé comme ça. Il n'y avait pas de femmes battues, etc. C'était pour remplacer les hommes et donner une valeur à la vie de la femme.
J'avais une petite question aussi sur les problématiques. Est-ce que vous traitez des problématiques aussi locales liées justement aux femmes, ou est-ce que c'est vraiment plus en lien avec des actions nationales et internationales que vous mettez en lien avec les autres sections de votre club service ?
Non. On peut faire des actions locales sans que... Bien sûr, il ne faut pas que ça soit autre chose que la défense de la femme
bien
ou
sûr.
Des enfants. Hein, c'est toujours...
Y a-t-il une action particulière toutes les actions sont évidemment super importantes, mais est-ce qu'il y en a une particulièrement qui vous a marqué au cours de votre expérience et que vous avez faite au sein du Zonta Club ?
Écoutez, je dirais pour la région où je suis, il y en a deux qui se ressemblent l'une et l'autre. C'est la création dans les hôpitaux. Donc la première opération, c'était à l'hôpital de Saint-Denis en région parisienne, et la deuxième à l'hôpital d'Orléans. C'est accueillir les femmes en difficulté, voilà, pour avoir un suivi. Et s'ils seront battus, pour voir s'ils peuvent faire quelque chose, ouais. Et un suivi derrière pour les rééduquer, ouais. Et la remettre sur une bonne piste. Ça, ouais. C'est important. Ouais. Et ça n'existe pas, ouais. Beaucoup encore dans d'autres régions.
Et de votre regard de militant associatif, est-ce que vous trouvez que cette problématique justement des violences conjugales est en augmentation ? Enfin, est-ce que vous voyez de plus en plus de femmes venir taper à votre porte ?
D'après les directrices qui sont médecins, d'après les directrices de cet établissement, oui, ça augmente de chaque année. Chaque année, il y a des augmentations.
D'accord. Malgré toute la prévention qu'on fait, pourtant, tout à fait. Très bien. Alpha, on va peut-être lui parler d'informations pratiques, peut-être ?
Zonta Club a 100 ans d'existence. 100 ans d'existence. C'est quoi le succès de Zonta Club ?
Le succès, c'est les actions que l'on peut faire. Et je dirais le fait aussi qu'on a une reconnaissance internationale, puisqu'on fait partie de l'ONU, nous sommes un membre consultatif, nous faisons partie de l'UNESCO et nous faisons partie de l'UNICEF. Et nous avons des collègues parisiens qui siègent dans ces deux instances. Voilà. Et déjà, c'est de pouvoir nous impliquer pour pouvoir aider les autres, quoi. Si on ne s'implique pas, on ne pourra pas aider.
Dernière question, Alain Pierre, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter ? Où est-ce qu'on vous retrouve ? Voilà, quelles sont les informations pratiques que l'on doit savoir à propos de Zonta Club ?
Alors, vous avez deux possibilités. Vous avez, pour le contact local, je pense d'abord qu'il faut passer par le local. C'est zonta.orléans@gmail.com ou sur Facebook, c'est Zonta Orléans. Vous avez toutes les informations que vous souhaitez.
Eh bien, allez rejoindre le club service Zonta Club, regardez sur les réseaux sociaux, informez-vous sur les activités de l'association. Merci beaucoup Alain-Pierre d'avoir répondu à toutes nos questions, merci à vous. On va passer à la suite de nos interviews.
La Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans.
Rentrée en fête sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Nous sommes à présent avec notre troisième invité, Alexis Orani, président de l'association Onifilm. Cléa, je te laisse poser la première question.
Bonjour, moi j'ai une mission locale. La première question que je vais vous poser. Quel est votre but de votre association ?
L'association Onifilm, c'est de la création et de l'accompagnement audiovisuel. On essaye de rassembler un maximum de talents de toute diversité, de tout horizon, qu'ils soient amateurs, curieux, curieuses ou professionnels, pour faire en sorte que Orléans devienne un autre territoire de cinéma et un cinéma un peu différent où chacun peut s'exprimer à travers ce média-là et découvrir aussi que le cinéma, c'est pas juste la caméra et le micro, c'est tout un tas de métiers qui sont derrière et c'est ça qu'on essaye aussi de montrer.
Ça fait quoi d'être président de votre association ?
Ce que ça fait d'être président
ouais.
de l'association Alors, au début ça fait pas grand chose parce qu'au début on est tout seul.
Okay.
Au début on est deux, trois et puis on est entre potes généralement, on est entre amis.
Mm-hmm.
Et puis en fait on peut ressentir un peu le poids des responsabilités quand d'un coup on passe de 10 à 50. Actuellement on est 50 adhérents et adhérentes et qu'on commence à avoir des opportunités pour faire briller l'association, faire briller les talents de l'association parce qu'on a tout un tas de talents, composition musicale, acteurs, actrices, tous les métiers du cinéma sont représentés dans l'association et du coup on commence à avoir vraiment des opportunités, des aides pour vraiment aussi faire des événements forts sur Orléans et là la pression commence un peu à monter et là il faut être faut réussir à motiver les 50 adhérents, il faut toujours être positif aussi. S'il y a un conseil que je dois donner, si jamais vous amenez une association ou quoi, ou tout type de projet de groupe, si vous êtes leader de ce groupe-là, soyez toujours positif, toujours, il faut que vous y croyez à 110%, parce que si vous y croyez qu'à 90% de votre projet, personne ne vous suit. Et en fait, même si on est conscient qu'il peut y avoir des pépins sur un projet, que rien n'est tout rose, il faut quand même continuer à y croire, motiver tout le monde. Et je pense que c'est ça la plus grosse difficulté d'être président.
Mais ça fait du bien quand même.
Ouais, c'est cool.
J'ai une question. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce métier ?
Je travaille dans l'audiovisuel depuis 7 ans maintenant. 4 ans dans une structure et ça fait 2 ans que je suis à mon compte et en fait j'arrive à trouver une symbiose entre mon activité professionnelle et l'association parce qu'en fait je fais exactement la même chose dans les deux cas, j'accompagne, je réalise, sauf que des fois il y a des projets qui me reviennent et d'autres qui sont à l'ensemble de l'association quoi. Ça dépend des types de projets. Ce que je fais principalement dans mon métier, c'est de faire de l'accompagnement dans les établissements scolaires, notamment autour du cinéma.
Est-ce que dans notre association, vous faites le métier du doublage ?
Alors, je réfléchis, est-ce qu'on a déjà fait du doublage ? Je ne pense pas, mais il y a de très grands passionnés de doublage dans l'association. Moi, le premier, j'adore le métier du doublage. C'est quelque chose que j'aimerais faire. J'aimerais rencontrer des grands comédiens et comédiennes du milieu du doublage, des Donald Renew, des Dorothée Pousseau, et Kelly Marot et d'autres. Et je peux les citer plein et... non, mais j'aimerais bien, parce qu'en plus, on a de quoi aussi faire du doublage, on a le matériel pour. Après, ce qui nous intéresse aussi, c'est de rencontrer directement les acteurs de ce milieu-là. Parce que, je ne l'ai pas dit, mais Onifilm, c'est aussi essayer de créer des opportunités de rencontre entre les jeunes adhérents et les professionnels du métier à travers différents événements.
Depuis que vous êtes président de votre association, c'est quoi le plus gros succès de votre association ou réussite
Je vais en citer deux. Deux événements marquants, ça a été la projection de notre premier court-métrage qui s'appelait Un regard, qui était sur les violences conjugales. Et nous avions diffusé sans trop de communication ni rien au cinéma Les Carmes. Les Carmes nous avaient accepté de nous accueillir et on avait fait salle comble au point que même il y a des personnes qui n'ont pas pu rentrer, c'est un truc de malade. Et en fait, depuis cet événement-là, tout a changé dans notre association. Il y a eu une grande vague d'adhérents et adhérentes qui sont venus, des opportunités qui se sont rajoutées, même individuellement. Le compositeur de ce court-métrage, c'était la première fois qu'il composait. Et depuis, on lui propose plein de courts-métrages, de films pour voilà. Et le deuxième gros événement, c'est la Nuit des Ombres en 2023. C'était la soirée d'Halloween au Musée des Beaux-Arts. Et à ce moment-là, on avait créé une fausse mise en scène d'un faux tournage de film d'horreur qui se basait sur l'un des tableaux. On avait mis de la musique, on avait des maquilleurs et maquilleuses qui faisaient des fausses blessures, etc. aux enfants notamment. Et ça a ramené énormément de personnes. On en parle beaucoup encore aujourd'hui. On me cite cet événement-là. Et je pense que ça, c'est le plus gros événement. Ouais.
Moi, j'aurais une question sur l'actualité de ton association pour 2024-2025. Qu'est-ce qu'on va retrouver ?
Alors, pas mal de choses quand même. Déjà, le 28 septembre, place de Loire devant le cinéma Pathé, il va y avoir le village du cinéma. Il va y avoir plein de stands, d'activités autour du cinéma. Et nous, on sera présents avec en collaboration avec un DJ, le Saint-Disc. Et on va passer des musiques de cinéma, on va avoir des maquilleurs, on va y avoir différents adhérents qui vont venir avec leur expertise, parler de leur métier, que ce soit accessoiriste, décor. Et on va aussi projeter différentes bandes-annonces de production qui vont arriver plus tard. Donc ça, c'est le 28 septembre. Ensuite, du coup, tout à l'heure, je parlais de La Nuit des Ombres. On revient cette année, en 2024, le 26 octobre. C'est de 19h à minuit. Et là, pareil, on va faire une grande mise en scène théâtrale basée sur l'un des tableaux du musée, avec de la musique, des ateliers, et faire plaisir et faire kiffer les familles, tout le monde.
Les spectateurs. Voilà.
C'est ça. Et du coup, on termine l'année en novembre par la projection de notre dernier court-métrage qui s'appelle Purple Dreams, réalisé par Swan, un adhérent de l'association. Et du coup, ça, c'est prévu fin d'année.
Et aussi, ça vous arrive de faire des scènes hors Orléans ou que vous êtes que sur Orléans ?
Alors, nous, là, on tourne où on peut tourner, en fait. On n'est pas arrêté à Orléans. On essaye de mettre en lumière vraiment Orléans, les décors. C'est plus facile pour nous. On est majoritairement des Orléanais et Orléanaises. Mm-hmm. Mais ça nous arrive, s'il le faut, d'aller tourner ailleurs, à côté, même dans la région, complètement.
Comment on arrive à vous contacter ou à être bénévole dans votre association ?
Eh bah, bien, c'est tout simple. Il suffit d'aller sur www.onifilm.fr. Vous avez toute notre actualité, ce qu'on fait, et on a un petit bouton adhérer, et à ce moment-là, on adhère. On dit aussi ça, ce qu'on cherche dans l'association, ça veut dire, on peut dire, je suis curieux, mais moi, je suis surtout intéressé par le montage. Du coup, nous, on sait, et du coup, bah, quand on a des sessions de montage, on peut te proposer de venir.
Merci beaucoup, Alexis, d'avoir répondu à toutes nos questions. On te souhaite toute la réussite possible pour tes prochains projets cinématographiques.
Merci à vous.
Merci à toi.
Merci.
La Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans.
Radio Campus Orléans, c'est rentré en fête. Notre quatrième invité de la journée, c'est Antoine, un futur volontaire en service civique au sein de l'association Art et Design Inspiration, qui propose, il me semble, des ateliers autour du manga. Je laisse nos jeunes de la mission locale démarrer cet entretien. Cléa, tu avais une première question à lui poser.
Oui. En quoi consiste votre association ?
Alors, notre association consiste à voir les bases du manga, donc la morphologie, l'anatomie. On peut voir les bases, les émotions des personnages. On peut voir les personnages en pied. On peut voir aussi la composition d'images, les décors, l'ancrage, la couleur. Voilà.
Comment êtes-vous rentré dans le monde du manga ? Quelle expérience professionnelle vous avez fait pour...
Alors, pour rentrer dans le domaine du manga, j'ai toujours été passionné par le monde du dessin et j'ai d'abord travaillé de mon côté et j'ai fait aussi une école d'art qui s'appelle l'école Pivot à Nantes et en fait où j'ai pu voir plein de choses, la composition narrative, les différents styles, la morphologie, l'anatomie encore une fois et les couleurs, le contraste, tout ça, donc voilà.
J'ai une question sur le dessin de manga que vous faites.
Oui.
En fait, c'est de ce manga qui existe dans des films ou vous inventez vous-même le dessin ?
Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est du fan art, par exemple, s'il s'agit de personnages
oui, qui existent déjà
si
ou
ce sont des créations de personnages
non existants. Ouais.
Ouais. Alors, donc moi, de mon côté, je crée tout de A à Z. J'ai tout mon univers dans ma tête. Mmh. Et en fait, j'essaie de créer un projet autour d'une BD manga, donc en format BD franco-belge, mais avec le style manga, donc avec de la couleur principalement. Et j'ai aussi, donc on a aussi dans l'association des gens qui ont qui font plus de fan art, qui font plus de manga et qui font oui à partir de dessins existants.
Ta passion du manga, elle s'est créée comment? Parce que si tu es rentré dans cette association, et bien avant ça, si tu as commencé des études de dessin, j'imagine, autour du manga, c'est bien qu'il y a une passion. D'où est-ce qu'elle est venue?
Alors, ma passion du manga vient de mon enfance, de ma toute petite enfance. Ma mère m'a mis devant Albator, Capitaine Flamme, Cobra.
C'est rare que ce soit les parents hein, qui nous aient introduits dans notre génération.
Ça, ouais. Mais oui, du coup, c'est l'une de mes passions premières. Et oui, le dessin m'est venu là depuis... En fait, j'ai même mis du temps à... En fait, j'ai dessiné avant même de savoir parler. Et c'est comme ça que je me faisais comprendre, parce que bon, j'avais des soucis pour discuter. Et du coup, par exemple, si je voulais un gâteau, je dessinais un gâteau. Enfin, voilà, je me faisais comprendre par le dessin. Voilà.
Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui hésite à de rentrer dans ce domaine-là?
Alors, quelqu'un qui hésite, je lui dirais de foncer. Enfin, il faut pas avoir peur. De toute façon, on apprend tous de A à Z. Il faut être patient. Il faut savoir être curieux, perfectionniste. Même s'il faut savoir aussi lâcher son trait, parce que si on se met trop la pression, on n'arrivera pas.
Ouais.
Et donc, ouais, être curieux, prendre des références, essayer d'apprendre plein de choses. Voilà, c'est les conseils que je pourrais donner.
D'accord.
J'avais une question aussi sur les auteurs ou les inspirations peut-être que tu as lorsque tu dessines.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des auteurs, des mangakas particuliers qui t'ont vraiment inspiré ou que tu admires?
Oui, bien sûr. Donc j'ai bien sûr Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto. J'ai une grosse pensée à Akira Toriyama qui m'a clairement bercé toute ma vie, toute mon enfance. J'ai aussi c'est pas vraiment du manga, mais c'est Patrick Sobral, le créateur de la BD légendaire, qui a pris grande inspiration sur le créateur de Saint Seiya. Et sinon, il y a beaucoup. J'ai pas tous les noms. Il y a Dr. Stone, Black Clover, My Hero Academia. Alors je sais plus là. Mais sinon il y a tous ces créateurs là qui m'inspirent quoi.
Et aussi j'ai une question, est-ce que vous avez sorti des projets, par exemple des BD qui est à vous, de votre propre inspiration?
Vous voulez dire des projets de moi-même?
Oui.
Alors, j'ai
par exemple des BD ou un truc comme ça.
J'ai pour projet d'en faire une. Que j'ai appelé Fragment. Et en fait je suis en train de travailler sur les chara-design, sur les personnages, les caractères. Je suis en train d'écrire l'histoire et j'espère pouvoir la sortir. Donc déjà, si j'arrive à la sortir pour moi-même, ce serait l'idéal, mais si j'arrivais encore plus à l'éditer, ce serait le rêve absolu. J'ai ce projet avec c'est dans un univers très cybernétique, très futuriste, de la science-fiction à l'état pur, mais qui a aussi un message sur l'écologie, sur la nature. Et donc voilà, comme quoi la nature peut reprendre ses droits et puis voilà.
Comme vous prenez des enfants, je pense en stage.
Ouais.
En fait, vous apprenez aux enfants de dessiner.
Oui, c'est ça, oui.
On peut le démarrer, on peut démarrer à tout âge.
À tout âge, oui. Alors, pour Art Design Inspiration, on a quand même ciblé un âge minimum, c'est 8 ans.
Ok.
D'accord.
Pourquoi?
Alors, c'est plus que à partir de cet âge-là, c'est là où ils ont plus l'éveil, enfin la passion, et c'est plus facile aussi à structurer. C'est là où ils commencent à avoir des projets autour du dessin. Et là où ils peuvent penser que ça peut être aussi un métier d'avenir, même s'ils n'ont que 8 ans. Moi, je sais que c'est depuis mon jeune âge que je me suis rendu compte que j'aimerais faire ça toute ma vie. J'aurais pas l'impression de travailler.
C'est pas tout à fait comme le piano où on dit souvent il faut démarrer dès 3 ans, 4 ans, par exemple. Et par contre, par rapport au piano où on dit souvent que si tu démarres à 11 ans, 12 ans, 13 ans, c'est déjà trop tard. Le manga, si je le commence à 13, 14, 15 ans, est-ce que c'est déjà trop tard? Et si je le commence comme adulte, c'est à ton avis?
Alors à mon avis, il est jamais trop tard. Pour le manga, ça dépend de la passion, de l'investissement. On peut apprendre à tout âge, même adulte, même à 30 ans, 40. Si on veut vraiment faire ça, faut se donner les moyens. Je suis des jeunes, plus jeunes que moi sur les réseaux, qui ont commencé plus tard que moi et qui ont un bien meilleur niveau que moi. Et en fait, ils travaillent tout le temps, et ils ont un super niveau. Il y en a même certains qui vont signer pour des maisons d'édition. Je n'en suis pas encore là.
Comment se déroule l'atelier du stage du manga ?
Le stage, c'est lors des vacances scolaires. Et du coup, donc c'est de 9h à 16h. Et du coup, en fait, on voit, pour chacun, en fait, c'est personnalisé. Donc si un enfant veut faire une planche de BD manga, on va l'aider à structurer la planche, à faire les vignettes, à faire les personnages, à poser les personnages, les bulles. On peut aussi faire des personnages hauts en couleur, enfin, en entier. On peut apprendre les émotions, donc en fait c'est vraiment personnalisé et c'est chacun ses goûts, chacun son univers. Donc voilà.
Bien, on va conclure cet entretien. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés au cours de cet entretien. Antoine, donc futur volontaire en service civique au sein de l'association Art et Design Inspiration, donc des ateliers et des stages de manga à destination des jeunes et des moins jeunes. Ouais, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
La Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans.
Rentrer en fait l'enregistrement de cette émission sur ce forum des associations orléanais. Nous touchons à la fin de ce temps avec les jeunes de la mission locale. Cinquième et dernière interview, et cette fois-ci on va être vraiment au cœur du projet, au cœur de ce que nous menons depuis quelques semaines maintenant avec ces jeunes de la mission locale, puisque nous accueillons Mathieu Dufaux, programmateur de l'Astrolabe qui est notre partenaire avec ces jeunes de la mission locale, puisque nous les préparons dans le cadre de notre émission en direct que nous ferons ce samedi 14 septembre de 15h à 19h en direct du 109, et où nous recevrons de nombreux artistes, groupes qui sont programmés sur le festival de musique Hop Hop Hop, et avec également des showcases qui se dérouleront sur place. Fatoumata, Cléa, Alpha, je vous laisse en compagnie de Mathieu Dufaux. Fatoumata, je te laisse poser la première question.
Bonjour, moi c'est Fatoumata, accompagné par la mission locale.
Bonjour.
Du coup, j'ai une question. C'est quoi l'Astrolabe?
L'Astrolabe, alors, c'est une salle de concert, une salle de musique actuelle qui comporte deux salles, une salle de 250 places et puis une salle de 550 places qui, en fait, a plusieurs missions. Une mission de diffusion, c'est-à-dire faire des concerts. À la fois, nous, on est en tant que programmateur, on produit des concerts, et il y a des associations qu'on accueille qui peuvent louer l'Astrolabe et faire une programmation complémentaire. Il y a une mission d'accompagnement, c'est-à-dire des jeunes artistes ou des artistes professionnels qu'on accompagne sur scène, qu'on accompagne à la pratique, qu'on accompagne à la com, sur plein de dispositifs différents. Et la dernière mission, c'est une mission d'action culturelle, une mission qu'on est en plein dedans, là, c'est-à-dire c'est comment, qui est pilotée par Julie Delannoy, ma collègue, c'est comment on fait accéder aux musiques actuelles via des projets radiophoniques, via des projets d'écriture de paroles, via des projets de pratiques musicales, etc., etc.
D'accord, merci. Ça fait combien de temps vous êtes dans ce domaine-là ?
Alors moi, j'ai commencé en stage en avril 99, et après, à l'issue du stage, on m'a proposé un poste de chargé de com, et j'ai commencé en septembre 99. Donc 99-2024, nous sommes à 25 ans. Voilà.
Moi, j'ai déjà visité l'Astrolabe, j'ai vu les deux salles de 250 et de 500, et que vous produisez des artistes, et par rapport à des artistes que vous produisez, est-ce que vous produisez des artistes amateurs ou que des artistes qui émergent ou des...
En fait, on produit des artistes amateurs, effectivement, parce qu'au même titre que certains font du basket juste pour le plaisir, normalement, légalement, les artistes ne peuvent pas faire de la musique amateur sur une scène comme la nôtre, mais nous, on le permet, on l'ouvre. des artistes en voie de professionnalisation émergents, comme tu viens de citer, et puis des artistes un peu plus connus, c'est-à-dire que comme la grande salle à 570, elle implique aussi des artistes, beaucoup de public, donc elle implique des artistes à forte notoriété ou à moyenne notoriété, quoi. On est sur une salle qui va pas produire des artistes comme le Zénith, parce qu'on n'aura pas la capacité, ni les moyens.
Ni le public.
Et puis, c'est pas nos missions, en fait. On est plus sur des missions de musiques actuelles, sur l'émergence, sur les nouvelles tendances musicales également, c'est-à-dire voir ce qui se passe à droite, à gauche. On sait qu'aujourd'hui, le hip-hop est vachement écouté, est vachement streamé, donc on est attentif à ce qui se passe et on produit des artistes de hip-hop, quoi. Voilà.
D'accord.
Je sais pas si c'est le bon terme de dire produire le festival au pop-up, si.
Ouais, on produisait
le festival au pop-up, sur lequel donc nous aurons le plaisir d'être présents ce vendredi 13 et samedi 14 septembre. Est-ce qu'on peut dire un petit mot de la programmation de cette année? Quelles sont peut-être ses particularités par rapport aux programmations d'années précédentes? Est-ce qu'il y a des choses particulières à souligner de ton point de vue?
Alors, en fait, il y a un point commun, le tronc commun depuis 9 ans, c'est l'émergence. C'est-à-dire l'émergence, elle vient à la fois localement, nationalement, et puis internationalement, où on est attentif à... Et puis après, il y a tout ce qui est les courants musicaux, c'est-à-dire qu'on peut retrouver de la folk, du funk, de la noise, du rock, du rock'n'roll, plein de styles. Autour de plusieurs scènes qui sont dans l'hypercentre, autour de la cathédrale. Donc là, cette année, il y a une scène qui n'existe plus, c'est le Jardin de l'Évêché, puisqu'il est en rénovation. Là, la nouveauté cette année, c'est qu'on ouvre la cour du Panloup, qui est une cour qui est en fait qui va être ouverte gratuitement le samedi après-midi, où il y aura des groupes locaux, des DJ, la chorale de l'Astro, et un artiste professionnel qui s'appelle Joub, qui fait de la musique avec son vélo. Voilà. Et ça, c'est un peu la nouveauté. Et après, il y a le Campo Santo, qui est la scène principale aujourd'hui, avec deux scènes, en fait, qui vont faire en ping-pong, qui vont faire des concerts l'un après l'autre. Il y a la salle de l'Institut, où là, on va faire des choses plus... c'est une salle assise, donc des choses plus calmes, plus contemplatives, de la folk, des trucs... tranquillou, quoi. Et puis la scène du théâtre, où là, contrairement à ce qu'on a l'habitude d'avoir au théâtre, où on est assis, là on sera debout sur le plateau des artistes, où on a mis une scène et 500 personnes qui pourront rentrer dans cette scène. Donc voilà comment ça se passe, et puis c'est un pass pour un jour, un pass pour les deux jours, et puis on peut rentrer, sortir dans toutes les scènes tant qu'on veut, quoi.
Sur les artistes amateurs qui se produisent à la salle de l'Astrolab, en fait, ce qu'ils se disent, ils font la musique juste par plaisir. En fait, c'est vous qui les proposez de se produire, ou c'est eux qui viennent vers vous pour vous dire...
En fait, comme je disais au début, on parlait d'accompagnement. Et en fait, on a la chance d'avoir des locaux de répétition au studio Polysonic, au 108 rue de Bourgogne. Mm-hmm. C'est le studio où viennent répéter des amateurs, des amatrices. Mm-hmm. Et en fait, c'est mon collègue Benjamin Alcanis qui, lui, repère des amateurs. Mm-hmm. S'ils ont envie de se produire, on va les accompagner. C'est-à-dire qu'on va pas les lâcher tout seuls sur scène, parce que parfois, il y en a qui n'ont jamais fait de concert. Donc, l'idée, c'est qu'ils soient aguerris à la scène et qu'ils puissent faire un peu qu'ils puissent être accompagnés à la scène. Donc on va les accompagner, et c'est lui va les repérer, mais ça arrive que les artistes nous démarchent également, quoi.
Donc, ils viennent vous voir pour vous dire
ils viennent voir Benjamin, c'est mon autre collègue, et puis on les rencontre et puis on voit ce qu'on peut en faire. C'est à dire que parfois, entre le moment de la rencontre et le moment de la scène, il peut se passer un an, deux ans. C'est-à-dire que c'est pas immédiat, en fait. On n'est pas une scène ouverte où les gens viennent et puis peuvent jouer. Voilà.
Ouais, je comprends.
Quel conseil donnerez-vous à un jeune qui aimerait se lancer dans ce genre de domaine?
Bah, le conseil, si il va être musicien ou musicienne ou faire composer, c'est déjà de faire ce qu'il a envie de faire. Donc s'il veut écrire, il peut écrire. S'il veut faire de la musique, s'entourer de musiciens, regrouper des musiciens qui vont bien. Et après, trouver des locaux de répétition pour pouvoir avoir un outil avec une bonne acoustique pour pouvoir travailler et rencontrer des gens qui peuvent l'accompagner dans sa pratique. Après, libre à lui aussi, il y a plein de gens qui font du hip-hop, qui débutent tout seuls dans leur appart, dans leur maison, et qui viennent nous voir après ou pas. Le conseil, c'est au même titre que quand quelqu'un a envie de faire du basket, eh ben, il va faire du basket parce qu'il a envie de pratiquer. Oui. S'il a envie de faire de la musique, il se lâche et qu'il y aille. Après, il n'y a pas obligation d'être sur scène, il y a juste de s'entourer d'amis pour pratiquer la musique et, de, et s'il a besoin de conseils, nous on est là au même titre que l'association des filles qui est à côté, qui peut les accompagner dans la pratique, dans la composition, dans des... voilà.
Moi je connais la soirée depuis un petit moment. Notamment, j'ai vu que l'année dernière, il y avait eu le concours des, ou cette année, le concours des jeunes talents. Est-ce qu'il va être, il va y avoir ça l'année prochaine?
Alors, le concours des jeunes talents, il est organisé par la mairie d'Orléans. Il, okay. On l'accueille nous, mais c'est pas nous qui l'organisons.
Ah d'accord.
Okay. Nous, on fait partie de la sélection musicale, mais il y a aussi la sélection théâtre et puis il y a la sélection danse. La jeune fille qu'on entend là, je crois que c'est Birdseye qu'on entend, en fait, elle a été lauréat au concours jeunes talents. Donc c'est elle, elle avait pour le coup, elle avait des textes, elle avait de la musique, mais elle avait les pétoches quoi, elle avait peur de monter sur scène. Et à un moment, dans le cadre des jeunes talents, Chacha et d'autres professionnels à Polysonic l'ont encadrée, l'ont conseillée pour qu'elle puisse jouer sur scène et sortir de son téléphone et poser son téléphone par terre et apprendre les paroles par cœur, etc.
Ouais.
Donc, et pour le coup, comme elle a été lauréat, elle se retrouve sur des scènes, comme vous voyez, la scène aujourd'hui. Ça lui permet de faire des concerts à droite à gauche, de prendre confiance en elle. Elle n'est pas professionnelle, elle a juste écrit des paroles, un état d'esprit, noir sur blanc. Et puis elle a été lauréat aux jeunes talents et ça lui a permis de faire 2-3 concerts. Donc cette année, ça aura lieu au mois de février-mars. Mm-hmm. Et les appels à candidature vont bientôt arriver là.
Pour revenir sur Hop Hop Hop, de ton point de vue depuis le moment où ça s'est créé, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans l'univers musical régional, dans l'univers musical orléanais, mais certes dans l'univers musical régional?
À la fois, c'est un festival de musique émergente. Il y en a quelques-uns, hein, comme peut défendre, mais nous, on a choisi l'ouverture internationale. Quand on programme des groupes régionales, c'est qu'on a détecté en fait la capacité à jouer sur scène et qu'on les a vus et qu'on les a trouvés très très bons. Et très rapidement, il y a beaucoup de professionnels qui font le même travail que moi, qui sont venus de toute la France. Et ces jeunes artistes régionaux ont pu trouver leur tourneur, c'est-à-dire les gens qui vont travailler avec eux pour trouver des dates. Donc ça permet aussi de rentrer en contact avec un milieu professionnel, d'avoir une visibilité, de jouer devant un public. C'est aussi pour ça que qu'on fait de la musique, c'est qu'à la fois on est passionné mais qu'on a envie de montrer ce qu'on sait faire auprès d'un public et que le public leur renvoie un peu l'espèce de rencontre de chimie qui s'opère entre le public et les artistes. Et c'est aussi une ouverture pour des groupes internationaux qui sont pas très connus, qui peuvent être connus dans leur pays d'origine, mais qui viennent parfois pour la première fois en France. Et bien souvent on a vu des tournées qui sont construites grâce au festival, parce qu'il y a le programmateur des Vieilles Charrues, parce qu'il y a des programmateurs des Eurocaennes, parce qu'il y a des programmateurs de salles de concert qui découvrent un groupe en live, qui l'ont écouté avant et qui disent moi ça m'intéresse, et ils se retrouvent avec 10 dates 6 mois, 1 an après quoi. Après c'est un enjeu musical d'avoir cette proposition là sur la région, ce qui permet d'avoir une ouverture musicale. Nous on est sur des spectres assez différents, donc on va balayer plein de genres musicaux différents, donc ça permet d'attirer un public assez large, en tout cas c'est ce qu'on espère à chaque fois. Des gens pas forcément qui sont mélomanes, mais qui vont venir parce que le cadre il est chouette. Et donc on est dans un cadre quand même qui est assez fantastique, le cadre historique de la ville d'Orléans. Et c'est aussi participer à un moment, au même titre que d'autres assos le font à Orléans, à une vie culturelle, à une vie musicale, dans une ville avec un très beau centre-ville. Quoi. Voilà.
Vous produisez des artistes qui font du hip-hop? Hip-hop rap aussi, ça vous prenez ou...
On accueille des artistes, là prochainement on va faire Chila, qui est une artiste féminine qui fait du rap.
Mm-hmm.
On a fait Ziak, on a fait Romeo Elvis, on a fait Caballero et Jean Jass, on a fait Luigi, on a fait plein d'artistes comme ça régulièrement. Donc il y a des artistes qui viennent à l'Astrolabe régulièrement. Là il y a une femme qui s'appelle Isa Yazuke qui débarque au festival Hop Hop Hop, qui est une artiste rap avec des propos super intéressants. Donc oui, on essaye on est super attentif aux artistes rap féminins comme masculins. Ouais.
Si je peux me permettre, en fait, moi je fais du rap aussi,
ouais.
Mais je suis amateur, comme ouais. Je disais tout à l'heure, je le fais par le plaisir. Et si un jour, je ne me suis jamais produit sur scène quand même, mais entre amis ou au quartier, tout ça, ça m'arrive, mais... Vous disiez il faut voir Sébastien et
Benjamin.
Ah Benjamin, ok. Ouais. Et si je vois Benjamin, je dis ouais, je fais du rap, mais je ne me suis jamais produit en scène.
Après, lui, quand il va te rencontrer, il va te dire comment il va surtout écouter ce que tu fais comme projet, comment tu le défends, où t'en es, quel concert t'as fait, etc. Et après, ça va être une relation entre vous deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cadre identique à chaque artiste. Mm-hmm. Chacun défend une musique différente, chacun a des propos différents à dire. Mm-hmm. Tout le monde n'a pas envie d'aller sur scène, mais voilà. C'est juste une rencontre d'accueil et d'accompagnement. Et puis après, lui, il verra ce qu'il peut t'apporter, c'est-à-dire au moins peut-être un studio pour enregistrer tes maquettes.
C'est déjà enregistré, c'est juste se produire en scène. En fait.
Produire, ça veut dire qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'il va voir ce que tu as fait comme concert. Mm-hmm.
Et si tu ne l'as jamais fait ?
Eh ben, il va falloir en faire avant dans d'autres lieux, en fait, parce que l'idée, c'est de se pouvoir se produire, mais ça peut être sur des petites scènes. Nous, on a des scènes de repérage qu'on appelle astrosoniques, les jeunes talents. Ça peut être une première chose, au moins pour te faire connaître, même si c'est pas cette année où tu seras sélectionné, mais au moins on aura attendu tes compositions, etc. Donc commencer par ces scènes qui sont des repérages de jeunes talents, comme propose la mairie d'Orléans, comme les Astrosoniques, et après viendra le moment où tu seras sélectionné, ou un jour, ce sera pas forcément immédiat, mais ça, sauf si ta musique elle est déjà au point, et s'il y a un coup de cœur, quoi, ça dépend, quoi.
Ouais. Merci.
C'est bien ça, la rencontre entre le programmateur de l'Astrolabe et un jeune artiste qui veut...
Ah, c'est le cas pratique là.
Qui veut justement percer. Non mais c'est bien parce que du coup il y a des conseils qui sont donnés, des vrais échanges, c'est vraiment super intéressant. Moi avant de conclure cet entretien, j'avais une dernière question, c'est plus par rapport au déménagement futur, enfin le nouveau Astrolabe qui est prévu il me semble en 2027 sur le terrain d'Interrive. Toi en tant que programmateur, comment est-ce que tu vois ces trois prochaines années en attente de cette nouvelle salle, comment est-ce que tu... quelle est ton attente par rapport à ça ?
Nous, c'est une attente qu'on a depuis longtemps. Il y a quand même deux projets avortés avant de valider le troisième. Donc, on est un peu sur les starting blocks. On est un peu excité par le projet puisque l'architecte a été sélectionné pour le coup. Et on va enfin avoir un lieu fonctionnel avec une salle plus grande pour la grande salle. On va avoir des locaux de répète qui vont être dans la salle, donc on va pouvoir faire des allées et venues entre les locaux de répète, la salle, nos collègues, on va les voir plus régulièrement. Une salle dédiée à l'action culturelle, un jardin qui vont nous permettre l'été, au printemps, de faire des choses à l'extérieur. Voilà, c'est un outil qui va permettre de rayonner davantage aussi sur l'agglomération, puisqu'on était quand même si la salle dans laquelle on est, moi j'y adhère et je l'adore beaucoup, mais on était un peu cachés, voilà. Et là, je pense qu'on va attirer aussi un nouveau public, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont pas dans le centre-ville d'Orléans pour plein de raisons, qui vont dans l'agglo, qui habitent dans l'agglo. Et forcément, les artistes qu'on va faire dans la grande salle vont avoir un rayonnement un peu plus connu, donc ça veut dire que ça va amener de nouvelles personnes et de nouveaux auditeurs, auditrices, en fait, pour la salle. Donc c'est un enjeu super important. Donc la réflexion pour ce qu'on voulait comme ça là, au préalable, elle a été importante avec les différents intervenants, la ville, les archis et les programmistes, pour avoir un bâtiment, une salle qui nous ressemblait. C'est-à-dire il ne suffisait pas de construire quatre murs et d'y mettre des lieux dedans. Il y a un état d'esprit qu'on voulait mettre en avant. Un lieu où on va pouvoir aussi faire des concerts spontanés dans le hall avec des food trucks où on pourra manger. Il y aura un endroit qui sera ouvert en permanence où les gens pourront s'arrêter, boire un café, boire un coup. Voilà, ça sera davantage un lieu de vie. Nous, on avait l'inconvénient d'être au troisième étage. Et les rares expos qu'on a pu faire, les rares trucs comme ça, en fait, les gens venaient pas parce que c'était pas... Voilà. Donc c'est tout... En fait, on considère l'Astrolabe était un lieu où on allait au concert uniquement et on avait des réunions, des rendez-vous avec des artistes. Là, ça sera, on l'espère, un lieu où on pourra venir au long cours toute la journée, toute la soirée, boire un verre sans forcément rentrer dans la salle de concert. Il y aura pas d'obligation. Ça sera un lieu de vie, un lieu de culture à part entière, quoi.
On l'attend avec impatience.
Ouais, nous aussi, ouais.
Merci beaucoup, Mathieu
Dufour.
Merci
à vous.
Après, programmateur de l'Astrolabe, donc on a présenté à la fois tout ce que cette belle salle jusqu'en 2027, en tout cas.